Ensemble, si vous voulez bien. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donne-nous, notre Père, d'être à l'écoute à l'aube du Fils ce matin, de connaître toi, le seul vrai Dieu, de par la révélation de ton Fils. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Alors, je ne sais pas si là où vous êtes situé, vous voyez cette crèche ici devant. La crèche n'appartient pas à l'Église, ça appartient à la famille Orange. Mon nom de famille, si vous ne savez pas, c'est Orange. Je sais, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Un point où Madame Orange ne voulait pas prêter cette crèche pour cette illustration, parce qu'elle aime la crèche. Elle a dit « Tu prends laquelle ?» Et je n'ai pas entendu, en fait, ce qu'elle avait dit. Est-ce que je n'ai vraiment pas entendu ou est-ce que je n'ai pas voulu entendre? Et donc, j'ai pris celle-là plutôt que l'autre qui est un peu plus enfantin, l'autre. Il y a, vous voyez, ben, vous ne voyez pas, mais je vous assure, il y a Joseph, Marie, Jésus. Cette crèche est bien renommée chez nous parce qu'à un moment donné, Marie a été décapitée par l'un de nos enfants. Cet enfant restera anonyme, n'est-ce pas, Max? Cette crèche, bien entendu, n'a pas provoqué autant de débats qu'une autre cette année-ci à Bruxelles, située sur la Grande Place. Mais néanmoins, mon épouse reste attachée à cette crèche et donc nous sommes contraints de devoir l'avoir encore, j'imagine, pour quelques années au sein de notre foyer. Sauf si d'autres enfants ici présents veulent répéter ce qui a eu lieu à Marie, à d'autres figurines à plus tard, à vue de voir. Une chose est claire, cette crèche-là n'est pas une vraie crèche ou mangeoire. C'est un petit modèle, n'est-ce pas, d'une réalité beaucoup plus grande. Et cela nous amène tout de suite à la première image que vous avez ici sur ce livret, en dessous du texte de l'Évangile de Jean. À gauche, il y a une tente. Non, ce n'est pas que je vous conseille de faire du camping lors de vos vacances d'hiver, mais vous pouvez essayer si ça c'est ce que vous voulez. Non, ici, c'est une tente car pendant un temps, Dieu demeurait au milieu de son peuple dans une tente appelée le tabernacle. Avant qu'il y ait un temple à Jérusalem, il y avait le tabernacle. Dieu, alors que nous ne soyons clairs là-dessus, il est plus grand qu'une tente, bien entendu. Il n'habite pas dans une tente. Sa demeure est l'univers dans son ensemble, tout entier. Tout ce qui existe, la Bible nous le dit, a été créé par Dieu. Mais pendant un temps, ce Dieu créateur daigne demeurer avec son peuple dans le tabernacle. Et comme pour notre crèche ici ce matin, le tabernacle lui-même est aussi un modèle d'une réalité beaucoup plus vaste. Car le projet de Dieu, c'est de rassembler tout un peuple dans sa présence pour toujours. Alors toute la Bible tourne autour de cette histoire-là. Alors peut-être ça vous surprend ce matin éventuellement. La Bible, peut-être jusque-là pour vous, c'est surtout un système de règles ou de lois ou de rites religieux. Ah, eh bien non, la Bible raconte une grande histoire, une histoire majestueuse si vous voulez, d'un Dieu qui demeure parmi son peuple. Vous voyez donc le texte tout en bas, le texte d'Apocalypse. C'est la fin, cela, de toute la Bible. Et c'est l'avant-dernier chapitre de ce dernier livre. Et il y a une vision, là, de comment les choses termineront. Que dit ce texte? « J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » Donc vous voyez, Dieu parmi les hommes. Quelle sera la conséquence de cela? Le texte continue. « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Alors là, ce monde-là, c'est encore loin du nôtre, n'est-ce pas? C'était dimanche dernier que nous avons appris qu'il y a eu une fusillade meurtrière sur cette plage de Bondi à Sydney. Deux islamistes tirent sur de nombreuses personnes qui fêtaient le premier jour du Hanouka, la fête juive des Lumières. Il y a eu la mort, le deuil, des cris, de la douleur. Et tout d'abord, j'aimerais dire que Dieu n'est pas indifférent à de telles souffrances. Et le moment viendra lorsque ce monde et tout le mal qui s'y trouve n'y sera plus. À ce moment-là, Dieu, lui en qui il n'y a pas de ténèbres, demeurera pleinement avec les hommes. L'histoire de la Bible donc, commence avec l'homme dans la présence de Dieu, dans le jardin, Adam et Ève. Le jardin, c'était un endroit verdoyant, plein de vie, plein de bonté. Mais ensuite, l'homme se rebelle, rejette l'autorité de Dieu. Mais on doute la bonté de Dieu. Et la conséquence, c'est qu'il est expulsé du jardin, loin de la présence de Dieu. Et c'est là où il découvre un monde taché par les conséquences de sa chute. Là où il y a la mort, le deuil, des cris, de la douleur. Mais entre le début en Genèse et la fin de l'histoire en Apocalypse, donc Genèse et le jardin, et Apocalypse et la nouvelle création, il y a ce que nous appelons l'histoire du salut. Dieu qui agit pour que l'homme puisse encore, pour que Dieu puisse encore vivre parmi les hommes. Le premier acte de cette histoire, c'est le tabernacle. Le tabernacle signifiait la présence de Dieu parmi les hommes. Et en même temps, il était le moyen par lequel l'homme pouvait entrer dans la présence de Dieu. Donc, contrairement à une crèche, le tabernacle était un lieu super dangereux. Car pour que Dieu y soit, il fallait de la protection pour l'homme. Car pour l'homme de rentrer dans la présence de celui en qui il n'y a aucun ténèbre, c'était catastrophique. C'est un peu comme si nous essayons, on nous dit, de regarder le soleil directement. Même brièvement, on nous dit que c'est extrêmement dangereux, car cela peut causer des brûlures permanentes et irréversibles de la rétine, entraînant une perte partielle ou totale de la vision. Devant la pureté et la bonté de Dieu, la sainteté de Dieu, l'homme ne peut pas se tenir. Donc, au sein du tabernacle, cette tente, il y avait un système soigneusement opéré par du personnel qualifié des prêtres pour la tâche, pour que l'homme ne rentre pas dans la présence de Dieu sans qu'il soit protégé. Et donc, avec des consignes respectées par le peuple de Dieu, Dieu demeurait avec son peuple. Et il amenait ce peuple-là vers la terre promise. Au sein du tabernacle, il y avait deux sanctuaires, le lieu saint et le lieu très saint. Alors, dans le premier sanctuaire, le lieu saint, il y avait trois objets. Un petit autel, une table avec 12 pains dessus et un chandelier. Et le chandelier ressemblait à l'image que vous avez aussi sur le livret. Dans la tradition juive, nous appelons ce chandelier une menorah. Alors la fête que célébraient les juifs sur la plage à Sydney dimanche dernier s'appelle la Hanouka, souvent appelée donc la fête des Lumières. Et là aussi, ils allument, lors de cette fête, une menorah. Alors celle-là a 9 branches, parce que cela symbolise autre chose qui a lieu plus tard dans l'histoire d'Israël. Mais la menorah au sein du tabernacle avait 7 branches, une tige au milieu et 3 branches de chaque côté. Le tout fait en or pur. Alors cela représente les 7 jours de la création et le repos dans lequel Dieu se trouve à la fin de ces 7 jours. Et la lumière qui vient du chandelier symbolise la présence de Dieu qui donne la vie et qui bénit l'homme. La menorah devait être façonnée de façon à ce que ces lampes éclairent ce qui se trouve en face dans le tabernacle. Cela est explicité dans des instructions données à Moïse. Qu'est-ce qui se trouvait en face du chandelier? Il y avait la table avec les 12 pains consacrés. Cette table aussi faite en or, avec les 12 pains dessus, 2 piles de 6, symbolisant les 12 tribus d'Israël. Et cet arrangement, si vous voulez, illustrait visuellement l'intention de Dieu que son peuple vive continuellement en sa présence de par la lumière et donc jouisse des bénédictions d'un Dieu qui demeure parmi eux. Et dans la bénédiction, dans le livre de Nombres que donne Aaron le prêtre, on entend ces mots, « Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. » Mais nous ne devons pas oublier que ce tabernacle n'est que un modèle de quelque chose de plus grand. Lorsque Dieu accordera sa grâce, pas en miniature à travers le modèle, le tabernacle, mais pour de vrai, à travers la réalité dans nos modèles pointes. Et cela nous mène à notre texte primordial de ce matin, car à Noël, nous célébrons le moment où Dieu, le Fils, est devenu homme. C'est le début, si vous voulez, du deuxième acte de l'histoire du salut. Le verset 18, le dernier verset de ce texte dans l'évangile de Jean, dit cela de manière très claire, n'est-ce pas? Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Jésus-Christ, verset 14, est la parole faite chair. La parole qui, selon le début de cet évangile, était avec Dieu au commencement, qui était Dieu. Et donc voilà pourquoi Jean, ici dans le verset 15 de notre texte, peut dire de Jésus, la parole faite chair, « Celui qui vient après moi, Jean l'avait précédé, m'a précédé. » Mais pourquoi? Car il était avant moi. Dans le danger d'une crèche à Noël, c'est là où je suis, moi, parfois situé dans notre débat de famille, c'est de trouver la scène mignonne quand il y a un petit bébé. Mais le vrai drame de Noël, c'est l'identité du bébé qui s'y trouve. Je ne sais pas si vous connaissez, vous, la surprise ou le ressentiment de surprise lorsque vous apprenez que quelqu'un que vous connaissez arrive à faire quelque chose d'assez impressionnant, que jusque-là, vous n'avez pas capté cela. Hier, on avait un spectacle pour les enfants, et j'avais, moi, un tout petit peu ce ressenti un peu inattendu hier, lorsque j'ai vu certaines personnes, et surtout une personne, je ne vais pas nommer cette personne pour qu'il ne se vante pas, qui jouait un rôle lors du spectacle. Et c'était vraiment le ressenti, « Ah ouais, ok, toi tu sais faire ça. » Je n'aurais pas imaginé ça. Alors c'est surtout ce ressenti-là que nous avons devant Jésus-Christ, dans la crèche. Ah ok, il est question de Dieu qui se fait homme. C'est un événement, ça, tout à fait exceptionnel que ça soit le cas. Voilà pourquoi c'est bien attesté. Voilà pourquoi les chrétiens encore mettent l'accent là-dessus. Pourquoi ça continue encore 2000 ans plus tard à faire du bruit. Et que fait la parole qui est devenue chair, verset 14? Elle a habité parmi nous. Elle a ce mot pour habiter. En fait, c'est le même mot pour le tabernacle. Elle a, on peut y traduire, elle a tabernaclé parmi nous. Demeurer, habiter. Car le plan de Dieu, qui démarrait dans le tabernacle, avance maintenant lorsque Jésus-Christ entre en scène. Nous sommes passés maintenant à l'acte 2. Nous ne sommes pas encore au dénouement, mais on s'y approche. On passe du modèle à la réalité. Car lorsque Jésus habite parmi nous, Dieu est présent parmi nous en chair humaine. Et comme pour le tabernacle, le modèle, Jésus est non seulement le lieu où Dieu est présent parmi les hommes, mais il est également le moyen par lequel les hommes peuvent entrer dans la présence de Dieu. Les mots suivants de notre texte disent que cette parole était pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Alors ces mots donnent un résumé de ce que Jésus effectuera lors de son ministère sur terre, qu'on voit plus tard dans l'ensemble de cet évangile. Car le nœud dramatique de cet acte, ce deuxième acte, c'est que Jésus, la parole faite chair, sera suspendu sur une croix. Et à ce moment-là, il fera face lui, à la sainte colère de Dieu qui doit tomber sur n'importe quel homme impur qui tente d'entrer dans la présence de Dieu sans être protégé par le sacrifice que Dieu prévoit. Alors, dans le modèle, le tabernacle, le sacrifice, c'était quoi? Un animal sacrifié. Suprêmement, une fois par an, c'était un agneau immolé pour que les péchés des hommes soient pardonnés. Mais le vrai sacrifice, la réalité dont pointe le modèle, c'est Jésus lui-même. Lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a pris chair humaine, lorsqu'il meurt sur une croix, il rend possible l'accès à Dieu. Car lors de sa mort sur la croix, il satisfait la justice de Dieu. Dieu, vous voyez, il ne ferme pas ses yeux à l'injustice, au mal, à l'orgueil, à la haine. Que ça soit manifesté sur une plage à Sydney, ou bien que ça soit manifesté dans mon cœur, rien que cette semaine écoulée. Dieu, dans les deux cas, il est trop bon, trop pur, trop saint pour passer de côté comme si rien n'a été. Dimanche dernier, nous avons tous été, je l'espère, admiratifs et reconnaissants pour le courage de l'homme qui a sauté sur l'un des deux terroristes qui arrivait à lui arracher son fusil. Ahmed Al-Ahmed. Mais en fait, il y avait trois autres personnes qui ont trouvé la mort en tentant eux aussi d'arrêter les terroristes. Ils ont payé le prix ultime dans leur tentative de protéger les gens du mal. Jésus, le Fils de Dieu, lui meurt pour nous protéger. Alors pas du mal, mais de la sainte bonté de Dieu, afin de nous pardonner du mal qui se trouve en nous. Son sacrifice ne nous protège pas d'un monstre, mais de lui-même. le Dieu trois fois saint, patient, bienveillant. Et il démontre jusqu'à quel point il est bienveillant, plein de grâce et de vérité selon ce texte, car il trouve un moyen pour que nous, les hommes, nous puissions nous approcher de lui sans compromettre sa sainteté ou sa justice. Notre texte, verset 14, dit que nous avons contemplé sa gloire. Pas de surprise de comprendre que c'est à la croix, lorsque Jésus se sacrifie, que Jésus manifeste suprêmement sa gloire. À la croix, il pourvoit un moyen pour nous, des hommes pécheurs, de nous approcher de Dieu trois fois saint. C'est parce que Jésus est le tabernacle, c'est en venant à Jésus-Christ que nous pouvons entrer aujourd'hui dans la présence de Dieu pour trouver la paix et la bénédiction qui découlent de la lumière qu'il nous donne. La fin du verset 16 dit que nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Alors qu'est-ce que ça signifie cela? Verset 17 dit que la loi a été donnée par Moïse. C'était là le premier acte dans cette histoire du salut. C'était déjà bien. C'était de la grâce, car grâce à ces instructions données à Moïse, le tabernacle a été établi. Cela accordait un accès à Dieu, mais un accès limité. Mais le texte continue, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est l'acte 2, le nœud dramatique. C'est encore mieux donc de ce que a eu lieu dans le premier acte. Le modèle devient la réalité. Et nous célébrons Noël car grâce à Jésus-Christ, c'est possible pour vous et moi, chers amis, sans que nous le méritions, d'entrer dans la présence de Dieu sur base de son sacrifice. Le pardon qu'il nous faut se trouve uniquement en lui. Et c'est ainsi que nous attendons encore le dénouement de l'acte 3, la réalisation ultime, quand Dieu demeurera définitivement parmi les hommes dans un monde renouvelé, encore à venir, dont parle ce texte dans Apocalypse. Là, le monde entier, en fait, est décrit comme le tabernacle, car la présence de Dieu sera partout. Et là où Dieu il se trouve, il n'y a pas de mal. Il n'y aura plus donc de mal, de mort, de deuil, de cri, de douleur. Alors, est-ce que je peux vous demander, certains ici, chers amis, vous n'avez pas, vous, envie d'un tel monde, un monde qui ne connaît rien que la bénédiction qui découle de notre Dieu créateur? Bah, pour trouver ce monde-là, vous devez vous confier en Jésus-Christ, la parole faite chair. Et nous célébrons cet événement, la parole faite chair, aujourd'hui. Vous devez vous confier en Jésus-Christ. Pourquoi? Car il n'y aura pas de place pour ceux qui commettent le mal. Un autre verset autour d'Apocalypse chapitre 21 dit ceci. Il n'entrera dans ce nouvel endroit, la terre renouvelée, la nouvelle création. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Non, il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous savez, ça n'a pour être purifié, pardonné. Il ne suffit pas, vous, une fois de plus cette année-ci, de se dire, « Ok, je vais encore faire un peu plus d'efforts. » Oui, c'est vrai, je ne suis pas aussi à la hauteur que je dois l'être. Bon, je vais faire quand même un effort. « Ok, ben je vais assister quand même à ces rites religieux. Je viens au culte de temps en temps. Ça va faire la différence. » Non, de tels efforts ne suffisent pas. Il faut se tourner vers le sacrifice que Dieu pourvoit pour être là où Dieu se trouve. l'agneau sacrifié, Jésus, le Fils de Dieu, fait chair. Nous devons nous confier en lui. C'est ainsi que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça ne dépend pas. Ah, qui est dans mon livre? Ah, un tel, il a fait ceci, il a fait cela. Ça ne dépend pas de nos efforts. Ça dépend de l'œuvre de Jésus-Christ. Est-ce que mon nom est dans ce livre? Ben, est-ce que je me suis confié en ce que Jésus-Christ a effectué pour moi? Vous savez, la lumière dans le temple qui venait, dans le tabernacle qui venait du chandelier d'or, la menorah, signifiait donc la présence de Dieu au sein d'Israël. Mais dans le dernier acte, l'acte 3, quand Dieu demeurera définitivement parmi son peuple, nous lisons dans l'Apocalypse que la ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et donc même cette menorah qui se trouvait au sein du temple n'est qu'un modèle ultimement de ce que c'est pour nous de vivre pour toujours dans la présence de Dieu. Noël, mes amis, annonce ce monde qui vient. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau immolé, nous invite à nous tourner vers lui. Je vais terminer avec une courte prière et ensuite je donne la place à toi, Jean. La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Combien, Seigneur, nous te louons que tu as trouvé moyen pour que nous puissions demeurer dans ta sainte présence. Combien nous avons soif de ce monde où il n'y aura ni de mort, ni de cri, ni de douleur, parce que toi, tu y seras pour toujours. Et nous te louons, Seigneur, que Jésus-Christ, la parole faite chair, a pourvu ou a trouvé un moyen pour que nous puissions demeurer avec toi. Donc, donne-nous de contempler le Fils qui est né à Bethléem il y a 2000 ans. Donne-nous de prendre le temps, ce Noël, de réfléchir sur cet avenir encore qui viendra, où toi tu demeureras avec ton peuple pour toujours. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen.
Merci Steve.